Traditionnellement, frères et sœurs, lorsqu'on médite sur ce passage de la Transfiguration, on médite en pensant que cette expérience spirituelle de la transcendance du Christ, cette blancheur telle qu'on n'en voit pas sur terre, cette luminosité, va ensuite aider les apôtres à suivre le Seigneur dans sa passion. Et donc les soutenir dans l'accompagnement du Seigneur, c'est une lecture possible. C'est celle peut-être que vous avez souvent entendue. Mais vous savez, quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est toujours bien de se demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autre lecture possible? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de voir cet épisode tellement connu de la Transfiguration? Un peu comme quand on tourne une scène de film, le réalisateur se dit, « Tiens, si je mettais la caméra là, qu'est-ce que ça donnerait ?» Eh bien, j'aimerais bien mettre la caméra sur la première lecture, connue aussi, ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac. Mais à tort, puisque dans la tradition juive, vous le savez, on appelle ça la ligature d'Isaac. Isaac avec les mains liées, et donc était lié sur le bois de l'autel, pour être offert ensuite en sacrifice, mais de fait, il n'y a pas eu de sacrifice. Et au fond, si cet épisode de la Transfiguration nous permettait de regarder à nouveau frais, avec une lumière nouvelle, nos relations familiales. Parce qu'il s'agit bien de famille, dans la première lecture, Abraham et Isaac. Il s'agit aussi de la relation du Père et du Fils dans l'Évangile. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Au fond, est-ce que la Transfiguration ne nous invite pas à regarder ce qui peut être entravé dans nos relations familiales, singulièrement, mais pas que, dans nos relations amicales aussi, voire professionnelles? Qu'est-ce qui est lié comme... Isaac avait les mains liées. Qu'est-ce qui est lié dans nos relations? Et de demander, au fond, que ce soit délié, parce qu'au fond, c'est ce qui va arriver. L'enfant ne va pas être mis à mort, ce qui aussi est le message envoyé à tous, de dire qu'il n'y a plus de sacrifice humain, contrairement à d'autres religions, du temps même, je pense aux religions précolombiennes, par exemple, les Incas, il y avait beaucoup de sacrifices humains. Et donc, dans leur religion juive, et ensuite, il n'y aura plus du tout de sacrifices humains. Mais de se dire, tiens, au fond, est-ce que la lumière de la Transfiguration ne vient pas justement regarder d'une autre manière les relations que nous avons en famille, puisqu'il s'agit là de père et de fils? Ce qui pouvait être entravé, ce qui pouvait ne plus fonctionner, ce qui n'était plus fluide entre nous, à nouveau retrouve une manière de simplicité, une communion. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la résurrection du Christ et cette luminosité qui nous vient de la résurrection, et ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit, eh bien, quand je serai ressuscité d'entre les morts, c'est bien la lumière de Dieu, nous fait envisager événements et personnes d'une autre manière. D'une manière où on découvre ce qui est beau, lumineux, dans les relations qui parfois pouvaient être difficiles, voire qui dénouent un certain nombre de relations, voire qui jettent une lumière nouvelle sur des relations humaines qui pouvaient être plongées dans la ténèbre. C'est au fond ça, la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne, et nous pourrions... peut-être durant cette messe, nous dire, tiens, quelle relation, avec quelle personne ces relations sont entravées, ces relations sont empêchées, cette fluidité dans l'amour n'est pas au rendez-vous. Et souvent, on le sait très bien, si ça nous fait souffrir, c'est que ce sont des prochains proches qui sont dans ce cas-là. Avec quel prochain proche, membre de notre famille, nos amis, pour les étudiants, les camarades d'études, les collègues, bon, c'est plus éloigné, mais surtout les prochains proches. On peut demander à Jésus, à travers cette transfiguration, qu'il vienne dénouer, éclairer ce qui a pu être plongé dans la ténèbre. Oui, parce que nous sommes nous aussi des êtres complexes et on voit bien que dans notre manière d'agir, dans nos relations, on peut nous-mêmes mettre des liens, ligoter quelqu'un, c'est-à-dire lui mettre une étiquette, par exemple. Celui-ci, c'est un tel, c'est telle personne, c'est ce style de personne. Et on met des étiquettes sur les personnes. Celui-là est sympa, celui-là n'est pas sympa, celui-là est pénible, etc., etc. Ces étiquettes entravent l'autre, lui permettent pas, quelque part, de dire ce qu'il est. Vous voyez ? Et je trouve que la transfiguration vient justement à travers la relation du Père et du Fils, cette relation lumineuse, hein, cette relation qui nous vient de la Trinité qui se manifeste, hein, la nuée qui est aussi représentative du Saint-Esprit, donc on a toute une dimension trinitaire dans la transfiguration. Eh bien, cette communion trinitaire nous fait éviter de mettre des étiquettes, nous fait éviter d'enfermer des personnes dans des styles. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est précieux. Et c'est peut-être notre carême. Au fond, est-ce que c'est pas ça, si nous mettons la caméra de ce point de vue-là, à partir de la première lecture, est-ce qu'au fond, c'est pas ça que le Seigneur nous dit ? Avec la personne que tu as déjà enfermée dans un mode de vie, dans un style de vie, dans... eh bien, laisse la lumière qui vient de la Trinité, qui rayonne, laisse la lumière venir jusqu'à toi et lui redonner une autre manière de vivre. Parce qu'au fond, il s'agit d'avoir un autre regard. Vous savez, Moïse et Élie qui apparaissent dans cette, ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Moïse et Élie, c'est au fond toutes les ressources, les personnes ressources de tout le judaïsme. Ce sont les fondements des judaïsmes, mais ce ne sont pas des gens impeccables. Ce sont des gens avec beaucoup de défauts. Par exemple, pour reprendre le cas de Moïse. Moïse, vous le savez, a brisé les tables de l'Alliance. Il a brisé les tables dans sa colère. Moïse, vous le savez, a eu un moment de rébellion en n'obéissant pas au Seigneur, ce qui fait qu'il ne rentrera pas en terre promise alors que le pauvre malheureux a guidé tout le peuple hébreu à travers le désert et il restera au seuil de la terre promise. Ce n'était pas un homme impeccable, c'était quelqu'un d'assez fragile, avec beaucoup de défauts. Élie, je n'en parle pas, c'est un violent. Élie, vous vous rappelez tous les prêtres de Baal, je ne sais pas si on connaît un petit peu moins dans l'Ancien Testament, mais les prêtres de Baal, voilà, qui venaient, qui le menaçaient, etc. Il a dit, non, mon Dieu, c'est le vrai Dieu, et il a demandé que eux-mêmes, les prêtres de Baal, ben, fassent tomber le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Et puis rien n'est advenu. Et puis lui a dit, mettez de l'eau, rappelez ce passage, mettez de l'eau, etc. sur le bois. Et puis il a invoqué, puis un rayon du ciel est venu consommer le bois et l'eau et l'animal offert, mais aussi consommer les 450 prêtres de Baal qu'il a passé par l'épée, le cher Élie. Donc il n'était pas complètement apaisé, si vous voulez. Donc comme souvent les prophètes, c'est des hommes assez violents. Donc c'est assez intéressant de dire, tiens, il y a ces fondements, ces personnes ressources tellement fondamentales dans le peuple hébreu, dans le judaïsme, ce sont des personnes pleines de défauts. Vraiment, vraiment compliquées. Je vous déconseille, bon, alors Élie, bon, on ne le rencontre plus pas dans nos rues, mais si vous le voyez, je vous conseille de changer de trottoir parce qu'il n'est pas... Il est complexe à gérer, donc parce que sa colère est telle, parce que peut-être son amour de Dieu, etc. On en voit aussi, voilà. C'est pas la première fois qu'on tue au nom de Dieu, on voit bien dans l'Ancien Testament. Bon. Et alors je me dis, tiens, ces personnes qui sont ressources pour nous, ces personnes comme par exemple nos parents, parce que sont au fond les parents du judaïsme, les pères du judaïsme, Moïse et Élie, ces personnes qui sont ressources et dont nous voyons la difficulté, peut-être même à mesure que nous grandissons, nous voyons leur difficulté, ou si nous-mêmes nous sommes parents, nous, et que nous avons perdu nos parents, mais nous-mêmes, on voit bien qu'en vieillissant, bien, il n'y a pas forcément une bonification, eh bien c'est aussi important d'avoir un regard différent sur ces personnes ressources. Ces personnes qui vous ont fait du bien, comme Moïse et Élie ont été tellement fondamentaux pour le peuple hébreu. Eh bien, ces personnes qui nous ont fait du bien, qui sont complexes parfois à gérer, eh bien, Jésus les baigne de sa lumière, les baigne de sa gloire, les baigne de sa bonté et de son amour, les baigne de l'amour trinitaire dont il est le témoin. Il a un autre regard sur ceux qui nous sont proches, qui ont des défauts, que nous avons étiquetés, il nous donne une autre lumière. Et je trouve que c'est beau de voir les choses ainsi, si ça vous paraît bien, chers frères et sœurs, d'avoir cet angle-là particulier, de dire, tiens, au fond, la transfiguration, c'est éclairer d'une lumière nouvelle ce que nous avions enfermé dans les ténèbres, d'une certaine manière, ce que nous avons mis dans un petit sac, etc. Nous avons refermé tout et que nous avions laissé de côté. Jésus nous dit non. Moi, j'ai choisi qu'ils apparaissent avec moi dans la gloire. Ce rétroéclairage, hein, d'une certaine manière, qui vient de la gloire de Dieu, j'ai choisi que vous puissiez les voir. De même, Saint-Pierre. Saint-Pierre qui est là présent. Saint-Pierre, c'est quand même pas très brillant. Saint-Pierre qui, hein, avant que le coq ne chante, tu m'auras trahi par 3 fois. Donc, lui aussi, il est complexe à gérer, l'ami Pierre. Et il est là dans la gloire de Dieu. Je trouve ça beau de vivre comme ça. Je trouve ça beau d'avoir ce regard particulier. Justement, qui est un regard nouveau. Et on le sait bien, la foi, c'est le chemin. C'est le chemin du regard. Hein? C'est une nouvelle manière, on peut dire, d'envisager événements et personnes. Vous voyez, la foi, c'est ça. Alors, cette lumière qui nous vient de la gloire de Dieu, eh bien, nous n'en bénéficions pas. Il y a eu quelques saints, par exemple, je pense à Saint Séraphine de Sarov, qui est un saint de l'orthodoxie, mais reconnu aussi dans le catholicisme, dont on disait qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. Il y avait une lumière, mais vraiment au sens propre, qui sortait de son visage tellement il était proche du Seigneur. Il y a eu quelques exemples comme ça. Et puis il y a des moments lumineux aussi dans nos vies. Il y a des moments lumineux où c'est pas une théophanie comme là on la lit dans la transfiguration, mais il y a des moments lumineux aussi dans nos vies. Et je me dis, est-ce que de ces moments lumineux, en partant de ces moments lumineux, en nous laissant éclairer par eux, est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi une autre manière d'envisager événements et personnes? Vous voyez, je le crois profondément, j'en suis archi convaincu même. Parce que c'est ce que Jésus nous a donné à voir. C'est-à-dire, n'en parler à personne tant que je ne serai pas ressuscité d'entre les morts, c'est intéressant, c'est tant que vous n'aurez pas une lumière nouvelle, ne parlez à personne de ça, parce que précisément cette lumière nouvelle va vous donner un angle différent d'envisager la vie. Et si vous n'avez pas la résurrection, vous ne comprendrez pas ce moment-là. Et nous croyons en la résurrection du Christ. Et de cette résurrection lumineuse, de ces rayons sort la lumière, hein, c'est vraiment la parole de Dieu qui dit ça, hein, de ces plaies sort, voilà, sont lumineuses. Et je trouve ça beau de voir que Jésus ressuscite avec ses plaies. Hein, ses plaies, ses blessures, mais tes doigts dans les traces des clous, mais ta main dans mon côté, mais ces blessures-là, elles sont lumineuses. Peut-être aussi que nous avons été blessés dans des relations familiales, et on le sait très bien, nos familles sont complexes. Quand vous regardez par exemple les familles dans la Bible, elles sont toutes dysfonctionnelles, sont extrêmement compliquées. Déjà, pour commencer, Abraham qui veut tuer son fils. Disons que ce n'est pas non plus intuitif, si vous voulez, c'est quand même complexe. Donc déjà rien que ça, au fond, c'est intéressant de dire, tiens, parce qu'on a croit en la résurrection de Jésus, parce qu'on a une lumière nouvelle, eh bien on va avoir un regard nouveau. Hein. Dressons-la 3 tentes. Hein. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi Jésus. Alors on va demander à Jésus, dans ce carême, de nous laisser rétroéclairer d'une certaine manière de cette luminosité qui nous vient de la transfiguration et donc de la résurrection. C'est déjà les prémices de la résurrection et la transfiguration. Demandons à Jésus vraiment qu'il nous laisse d'avoir une vraie confiance que de découvrir la beauté de chaque personne. Dressons-la 3:30, c'est-à-dire comme il est bon d'être ici, c'est ça que ça veut dire. Hein, il ne savait que lire ni l'écriture tant il était au fond comblé de grâce. Quelque part, Pierre, il ne savait que dire, tellement il avait débordé de joie de voir l'autre dans la lumière de Dieu. Alors, on va demander au Seigneur ça, cette grâce, dans la foi, parce que notre vie, c'est dans la foi que nous vivons, et c'est pour ça que nous participons de l'Eucharistie, pour découvrir l'autre dans une autre lumière, mettre la caméra ailleurs. Nous avions peut-être focalisé sur le point noir dans la page blanche, et bien, dans ce carême, nous demandons à Jésus de venir avec la lumière de sa transfiguration, mettre un angle de vue différent. Et on le sait bien, quand on enferme les autres dans leurs défauts, nous parlons de nous-mêmes. Critiquer, c'est parler de soi. Et au fond, est-ce que enfermer les autres dans leurs défauts n'est pas un manque de confiance dans cette parole de Jésus « Tu es mon fils bien-aimé ». Ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute ma confiance. Amen.